France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Entre les provocations russes dans le ciel européen, les attaques de Donald Trump et la concurrence commerciale féroce que livre la Chine à l'Europe, cette dernière semble considérablement affaiblie sur le plan sécuritaire comme commercial. Alors l'ADN de l'Union européenne, pensé à l'origine avant tout comme un marché commun, lui permet-il de se battre avec des puissances hostiles? En clair, peut-elle faire sa mue pour mieux répondre aux défis actuels et tenter de devenir une puissance? Pour nous éclairer ce soir, un invité, Laurent Varlouzet. Bonsoir monsieur.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes professeur d'histoire à Paris-Sorbonne Université, spécialiste de l'histoire de l'Europe depuis 1945 et en particulier des différentes formes de coopération européenne, et vous êtes notamment l'auteur de cet ouvrage intitulé Europe contre Europe, entre liberté, solidarité et puissance, un ouvrage qui est apparu aux éditions du CNRS en 2022. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Lorsqu'on observe, Laurent Varlouzet, ces drones russes qui traversent le ciel européen, est-ce qu'on a tort? Est-ce que c'est une fausse idée de se dire qu'aujourd'hui l'Union européenne est bien faible, trop faible pour réagir face à la menace?
Alors l'Union européenne est faible, mais elle n'a pas été faite pour réagir face à cette menace, puisque les Européens, nous les Européens, les Français en premier lieu, on allait déléguer notre sécurité à l'OTAN, y compris nous, hein, puisque les Français, on était parmi les plus grands fanatiques supporters de l'OTAN en 49 quand elle a été créée. D'ailleurs, le siège de l'OTAN était en France, hein, à Fontainebleau, à Paris-Dauphine, là où il y a l'université Paris-Dauphine aujourd'hui, et puis à Rocancourt. Ensuite, Général de Gaulle a fait sortir la France du commandement intégré, mais puis on est rentré dans l'OTAN. Mais on a toujours délégué notre sécurité assez largement à l'OTAN, même si nous, on s'est doté de l'arme atomique qui nous permet d'avoir une espèce d'assurance-vie, mais qui est unique
nous, c'est
en
la France
Europe.
Ici, hein.
Voilà, nous, la France, voilà, nous, la France. Mais nous, Européens, on a quand même toujours délégué notre sécurité à l'OTAN, à cette organisation collective et singulièrement aux Américains. Et même nous, Français, on a cette assurance-vie avec la bombe nucléaire, mais nos troupes conventionnelles ne pourraient pas résister à une offensive russe ou même allemande si les Allemands se décidaient à redevenir nationalistes, puisque bientôt, ils ont annoncé un budget de la défense qui va quasiment être le double de celui de la France.
La voix d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle s'exprimait dans le cadre du discours de l'État de l'Union européenne au Parlement européen à Strasbourg. C'était le 10 septembre dernier.
Make no mistake.
Ne nous leurrons pas.
This is a fight for our future.
Nous luttons pour notre avenir. J'ai longuement réfléchi, je me suis longuement demandé si je devais commencer ce discours sur l'état de l'Union par un tel constat. Nous, Européens, ne sommes pas habitués à nous exprimer de cette manière. Nous ne sommes pas à l'aise parce que l'Union est fondamentalement un projet de paix. Mais le fait est que le monde d'aujourd'hui ne pardonne rien à personne. Nous ne pouvons pas faire abstraction des difficultés que les Européens rencontrent au quotidien. Ils sentent la terre trembler sous leurs pieds.
J'en rajoute une couche, Laurent Varlouzet. Est-ce que l'Union européenne, telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle est construite aujourd'hui, n'est pas faite pour vivre, survivre même dans un monde hostile? Ou bien est-ce que l'on observe depuis quelques années une mue tout de même qui est en train de se mettre en œuvre?
Je crois que c'est un petit peu des deux. Moi, ce que j'essaie de montrer dans mes recherches et dans mon livre, c'est que en fait, on peut faire de l'Union européenne un petit peu ce qu'on veut, si on en a la volonté.
C'est une construction perpétuelle, dis-je.
Voilà, c'est une construction perpétuelle avec des équilibres différents. J'ai simplifié entre liberté, égalité, entre liberté, solidarité, pardon, et puissance. Beaucoup de liberté, c'est l'Europe du libéralisme régulé, un peu de solidarité, notamment socio-environnementale, alors là, qui est un peu en retrait en ce moment. Et puis des velléités de puissance, mais qui n'ont jamais donné lieu à des réalisations très, très fortes, hein, sauf dans quelques domaines ponctuels, comme par exemple Airbus, un moment aussi Ariane. Et aujourd'hui, effectivement, avec la guerre en Ukraine, une mobilisation quand même, hein, qui permet à l'Ukraine de tenir. Mais, si vous voulez, en quelques années, il faudrait que l'Europe remplace l'OTAN en termes de puissance, en termes d'efficacité, en termes de volonté aussi, puisque la puissance, c'est à la fois des moyens Alors, à la limite, les moyens, on les a si on additionne les budgets militaires de chaque pays. Mais c'est aussi l'efficacité. Or, nous, on construit un peu tous les mêmes armes. Enfin, il y a beaucoup de duplication. Et puis, c'est de la volonté. Ursula von der Leyen dit, oui, nous n'avons jamais été habitués à parler en ces termes. Oui, au niveau de l'Union européenne, parce que l'Union européenne parle plutôt en termes de droit, de règles. Hein. J'ai écrit un petit article sur la fin de l'effet Bruxelles là, dans les Échos.
On y reviendra sur cette notion.
Alors, nous, au niveau national, en France, on a parlé avec, on a utilisé cet langage, notamment quand on est intervenu, on a intervenu régulièrement en Afrique. Mais c'est vrai que c'est pas un langage qu'on tient au niveau de l'Union européenne. Et donc, du coup, l'enjeu, ce sera ça, effectivement. Est-ce que l'Union européenne est capable de franchir cette mue? Et je pense que si elle le fait, il faudra qu'elle le fasse, pas simplement de Bruxelles, mais depuis les grandes capitales européennes et avec Bruxelles. C'est-à-dire que c'est pas Ursula von der Leyen ou la future présidente de la Commission toute seule qui pourra décider ça.
Et dans le même temps, lorsque l'Union européenne se dote d'un instrument nouveau permettant le financement de, à hauteur de 150 milliards d'euros pour des équipements militaires qui devront être produits majoritairement sur le territoire de l'Union européenne, est-ce qu'on n'a pas déjà là un embryon de puissance ou en tout cas une volonté réaffirmée dans ce domaine?
Oui, je crois que les deux évolutions qui sont liées à la guerre en Ukraine, c'est d'une part le fait que l'Union européenne maintenant s'investisse dans le champ militaire, y compris avec des armes létales, puisqu'auparavant tous les financements européens ne pouvaient financer que des équipements non létaux, et d'autre part qu'il y a cette notion de préférence européenne que les Français notamment ont défendu pendant longtemps et qui a jamais pu être appliqué et qui maintenant l'est dans le domaine militaire. Alors après, il faut voir comment ça va être appliqué. Depuis 2016, si vous voulez, il y a un tournant de l'Union européenne vers la puissance, vers une puissance d'abord économique, un petit peu plus affirmée, et maintenant vers une puissance militaire depuis 2022. Mais ça reste des velléités et beaucoup dépend de l'avenir et de l'application. Beaucoup de textes ont été votés, reste à savoir comment ils vont être appliqués.
Vous avez mentionné la notion de préférence européenne. Pourquoi a-t-elle mis tant de temps à faire son chemin jusqu'à Bruxelles? Quelle matrice philosophique fallait-il transformer pour cela?
Alors, l'idée, en fait, c'est que la préférence européenne contrevenait au libre-échange international. Elle contrevient pas au libre-échange en Europe, mais elle contrevient au libre-échange international. Et donc, la peur, alors là, c'est plutôt de nos partenaires que de la France.
Mais l'Union européenne, pardonnez-moi, je vous coupe, mais l'Union européenne n'est pas l'OMC. Elle n'a pas à défendre, en tout cas, on peut se dire que ce n'est pas son rôle, elle n'a pas à défendre le commerce international dans son ensemble, juste les bonnes règles du commerce en son sein.
Oui, tout à fait. Alors, c'est ce qui a été reproché pendant longtemps par la France à l'Union européenne, et c'était aussi un reproche des électeurs français lors du référendum de 2005, c'est que cette libéralisation, elle se faisait de manière très approfondie en interne, y compris en menaçant parfois les États-providence, et y compris en externe, alors que l'obligation ne s'imposait pas. Mais en fait, nos partenaires estimaient, et il y avait aussi la pression américaine, que si on discriminait les produits non européens, donc ça veut dire surtout les produits américains, on allait être confronté à des représailles commerciales. Et les États-Unis avaient menacé l'Europe en 88-89 de représailles commerciales si l'Union européenne, les communautés européennes à l'époque, mettaient en place une préférence européenne. Parce qu'à l'époque, c'était Jacques Delors qui était président de la Commission européenne, François Mitterrand était très influent, et donc les Français voulaient, d'une manière ou d'une autre, de développer une notion de préférence européenne assez limitée, en fait, faut bien le dire. Mais même là, c'est pas passé parce qu'il y a eu cette pression externe des Américains et interne de Thatcher et d'autres ultralibéraux.
Un accord prévoit que les biens européens sont taxés à hauteur de 15% lorsqu'ils pénètrent le marché américain. L'inverse n'est pas vrai puisque les produits américains qui entrent sur le sol européen ne seront pas du tout taxés. Beaucoup ont expliqué que cet accord était un accord de la honte pour l'Union européenne, un échec absolu. Comment vous l'inscrivez justement dans l'histoire et la vision du commerce international européen? On est frappé de voir que cette notion de commerce qui était peut-être l'avantage comparatif de l'Union européenne s'est totalement démonétisée dans cet accord.
Alors, il y a deux choses, je dirais, qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon, d'une part, c'est vrai que cet accord, ça s'inscrit dans un espèce de retour des préférences impériales qui est assez sidérant.
Côté
américain, par leur côté justement déséquilibré, c'est-à-dire que les Américains imposent des tarifs à tout le monde, y compris à l'Europe, et sans rien obtenir en retour. Et donc de ce point de vue-là, c'est vraiment un échec énorme de l'Union européenne, c'est un échec plus général du multilatéralisme. Des observateurs, y compris pro-européens, ont critiqué cet accord. Par exemple, Margot Wallström, qui avait été commissaire au commerce, donc c'est quelqu'un de pro-européen et de libéral. C'est pas du tout quelqu'un d'eurosceptique, en estimant que la Commission européenne avait trop cédé, alors que un arsenal de mesures de rétorsion avait été prévu. Donc, en même temps, on peut se demander, puisque je pense qu'en matière d'Europe, il faut toujours se poser le contrefactuel. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la construction européenne, qui n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, enfin, de toute façon, rien ne s'impose dans l'histoire, tout est contingent, si on était tout seul face aux États-Unis, est-ce qu'on aurait fait mieux? Bon, moi, j'ai regardé la presse, qu'est-ce que j'ai vu? Dès le lendemain, j'avais acheté le Figaro, j'étais en vacances, en fait, on m'avait sollicité, mais bon, je me suis renseigné un petit peu, et j'ai vu que les entreprises françaises étaient très contentes, en fait, de l'accord. Donc, sans l'Union européenne, est-ce qu'on aurait fait mieux? Est-ce qu'on n'aurait pas fait moins bien? Il faut savoir que nous, la France, on a un gros problème face aux États-Unis, c'est le même problème que l'Union européenne, c'est qu'on est en excédent commercial. En France, nous, on a un déficit de la balance commerciale avec quasiment tous les pays, sauf avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc, on est en position de faiblesse. On doit vendre notre cognac, on doit vendre nos produits de luxe aux Américains. Et on représente un marché plus petit que l'Union européenne. Donc, en fait, est-ce qu'on s'en serait mieux sorti que l'Union européenne? C'est pas sûr.
Les entreprises françaises très contentes, ça dépend tout de même des secteurs. Vous avez
c'est peut-être un peu exagéré, mais disons soulagé qu'il n'y ait pas de guerre commerciale, parce que la peur, c'était que Trump, ayant cette personnalité versatile, il s'engage dans une guerre commerciale. Et donc là, après, c'est toujours le problème du bluff du poker. Est-ce qu'il va vraiment déclencher sa guerre commerciale avec son premier partenaire et son premier allié ou pas?
Vous avez évoqué une notion, Laurent Warlouzet, dans cet échange, celle d'effet Bruxelles. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Oui, alors l'effet Bruxelles, Annie Bradford, c'est une juriste américaine qui avait observé ça dans les années en 2020 et dans les années 2010. C'est la capacité de l'Union européenne à être une puissance normative, une puissance par les normes, une puissance par le droit, en fait. C'est-à-dire que le droit européen, s'appliquant déjà à un très grand marché, à un marché composé de plusieurs pays qui ont des normes différentes, ça représente un bon compromis entre entre l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, entre tes préoccupations écologiques, des préoccupations de compétitivité. Et donc, c'est des normes qui ont influencé les pays au-delà de l'Europe. C'est-à-dire que les entreprises, l'idée d'Andrew Bradford, c'est de dire que les multinationales passent tellement de temps à s'adapter à la législation européenne qu'ensuite, elles vont avoir tendance à reproduire cette législation dans les autres pays, même si elles n'y sont pas obligées. Donc ça, c'est un aspect. Et plus concrètement, ça se voit dans deux aspects très rapidement. L'aspect environnemental, l'accord de Paris aussi, c'est une forme de leadership européen. Alors, c'est pas un accord de l'Union européenne, mais le fait est que, comme l'Union européenne a joué un rôle pionnier après dans le pacte vert, c'est l'idée d'effet d'entraînement que l'Europe pourrait avoir. Et puis le troisième aspect, c'est l'effet Bruxelles en matière de concurrence, c'est-à-dire la capacité qu'a la Commission européenne, et donc nous à travers elle, de condamner des entreprises, y compris des géants américains, comme Microsoft, Google, à des amendes lorsqu'ils ont des comportements qui enfreignent le droit européen.
Vous l'avez mentionné, Anu Bradford, professeur de droit et d'organisations internationales à Columbia, à New York. On entend sa voix et justement son interprétation de ce concept forgé par elle-même, l'effet Bruxelles.
I think the conversation about
Je pense que le débat sur la géopolitique et les dynamiques du pouvoir international s'est beaucoup concentré sur un type de pouvoir qui, à mon sens, est quelque peu dépassé ou incomplet. En nous focalisant uniquement sur le pouvoir, nous sous-estimons le type de pouvoir qui a une incidence très importante sur la vie quotidienne de chacun d'entre nous. L'effet Bruxelles fait donc référence au pouvoir réglementaire, c'est-à-dire le type de pouvoir que l'UE est en mesure d'exercer à travers ses règles et réglementations. Il se manifeste, par exemple, à travers la réglementation européenne en matière de protection des données, le règlement général sur la protection des données, ou la capacité de l'UE à réglementer le marché mondial par le biais du droit de la concurrence ou de sa réglementation sur les produits chimiques, donc la sécurité alimentaire ou la protection de l'environnement. À bien des égards, cela reflète le type de réglementation qui nous affecte tous au quotidien. Les lois de l'UE ont une incidence sur les aliments que nous mangeons, l'air que nous respirons et les produits que nous fabriquons et consommons.
Est-ce que cela signifie, Laurent Warlouzet, que l'effet Bruxelles, dans le fond, si cela veut dire que la puissance de l'Europe, la force de l'Europe passe par le droit, par la règle, par la réglementation.
Oui, c'est ça. Il parle l'exemple, en fait. Et on a à la fois cet effet de Bruxelles. Donc, concrètement, voilà, Annie Bradford, elle parle des Américains. Quand elle dit nous, c'est nous, les Américains. On est influencé indirectement, finalement, par la législation européenne, parce que les multinationales, même les nôtres, peuvent avoir des amendes de Bruxelles, sont tentées de suivre les normes de Bruxelles, etc., etc. Et l'autre effet, c'est l'effet sur les pays voisins et les pays qui veulent nous rejoindre. Là, ils sont incités à adopter le droit européen, même en étant en dehors de l'Union européenne. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la puissance civile de l'Union européenne. C'est pour ça qu'Ursula von der Leyen disait, voilà, on n'est pas habitué à parler en termes de puissance. Alors, ça dépend comment on définit la puissance, c'est-à-dire la puissance militaire, la puissance stricte, un peu ce que disait Joseph Nye, le hard power, qu'on a pris dans les cours de sciences politiques, le hard power, la puissance dure, voilà, on veut...
Qui passe notamment par les armes et par la guerre.
Voilà, et puis il y a le soft power qui passe par la culture, par l'influence, et là, nous, c'est plus ce soft power-là qu'on avait l'habitude de déployer, et qui maintenant est insuffisant.
Mais s'il fallait donc tirer une conséquence justement de cette notion-là, l'effet Bruxelles, est-ce que ça veut dire que l'Union européenne a intérêt pour se défendre, pour exister, pour devenir une puissance, à cultiver sa différence, notamment sur son mode de vie, sur la vision qu'elle porte au sujet de l'écologie, sur la vie privée, sur la façon dont elle perçoit les enjeux numériques, au fond, sur ce qui fait ce qu'elle est au niveau des valeurs?
Oui, je pense que ça, c'est le gros enjeu, et c'est pour ça que j'ai écrit ce petit article. C'est-à-dire, je ne peux pas prévoir l'avenir, mais on est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que les débats, c'est de se dire, est-ce qu'on va atténuer l'effet Bruxelles pour essayer de faire plaisir à Trump? Donc, on va éviter de mettre une amende à Google si on trouve qu'il domine trop le marché numérique. Ou est-ce qu'au contraire, on va atténuer nos législations environnementales? Ou est-ce qu'au contraire, on va essayer, comme vous le suggérez, de jouer sur nos avantages? Ne serait-ce que pour aussi peut-être dans une optique de compétitivité. Si on prend les industries vertes, on est en train de se faire dépasser par la Chine en matière d'industrie verte. On a peut-être intérêt à moyen terme à prévoir l'après-Trump et à investir là-dedans. Idem en matière aussi moi je suis universitaire de recherche. En fait, on voit que le président américain voulait augmenter les droits d'entrée pour des étrangers voulant travailler dans les universités américaines. On a peut-être intérêt à en profiter pour essayer d'attirer à notre tour des talents. Donc effectivement, je pense qu'il faut essayer de jouer sur cet effet Bruxelles de manière intelligente.
À l'origine de l'Union européenne, dans son cœur fondateur, trois logiques dominent et se font parfois concurrence. Vous les avez mentionnées, le marché libre, la solidarité, la puissance. Comment se fait-il que le marché libre, au fond, l'ait emporté durant des décennies?
En fait, c'était le compromis sur lequel tout le monde s'accordait, c'est-à-dire que on doit gérer des interdépendances par le libre-échange. Or, le libre-échange produit des effets négatifs et donc on a créé cette construction européenne pour essayer de gérer les effets les plus déstabilisant du libre-échange. Donc au début, c'était la CECA, c'était le charbon et l'acier. Globalement, l'histoire, c'était que les Français voulaient avoir accès au charbon allemand parce qu'on n'avait pas assez de charbon, nous, au même prix que les Allemands. Parce que le charbon, c'était un élément essentiel pour faire de l'acier et pour avoir la même compétitivité, il fallait avoir accès au charbon allemand. Puis après, on a continué. De Gaulle a soutenu le traité de Rome. Là, si aujourd'hui on a l'Union européenne, c'est parce que De Gaulle a permis au traité de Rome d'être appliqué, parce qu'il y avait beaucoup de doutes sur les capacités de la France à l'appliquer. De Gaulle, voilà, il estimait, je le cite dans les archives, il disait que la CE, c'était un traité de commerce utile. Ça permettait d'éviter qu'on ait des conflits trop récurrents avec les Allemands, les Italiens et les autres, ou les Belges et les Néerlandais. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait l'Europe du libéralisme régulé. La solidarité, ça passe essentiellement par l'échelle nationale, même encore aujourd'hui. Vous voyez, la plupart des transferts, les retraites, la santé, l'école, c'est national. Mais on a mis en commun des éléments de la solidarité qui étaient transnationaux. Alors, ça a d'abord été... ce qu'on appelait la sécurité sociale des travailleurs migrants, c'était le terme des années 60, c'est-à-dire globalement permettre aux immigrés qui étaient surtout italiens dans cette première CE d'aller en France, d'aller en Belgique, en Allemagne et de garder leur sécurité sociale, leur retraite, que leur femme ait aussi une protection sociale. C'était important dans les mines, par exemple, où il y avait une mortalité masculine précoce importante, donc la veuve garde des droits. Et ça a été l'ancêtre de ce qui a été, ce qui nous donne des droits, nous, en tant que citoyens de circulation et de travail, d'études dans l'ensemble de l'Union européenne. Et après, on a étendu ça à un autre aspect transnational qui sont les pollutions. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de régulations environnementales qui sont européennes, parce qu'on s'était dit que au niveau compétitivité et au niveau aussi tout simplement environnemental, c'était plus logique. Par contre, l'aspect puissance, il est resté essentiellement national, la diplomatie, l'armée, les industries stratégiques, sauf dans des domaines ponctuels. Voilà, on a réussi à créer Airbus, mais on a créé ça en dehors de la communauté européenne. Et aujourd'hui, il faudrait créer des Airbus dans le domaine du militaire pour créer une véritable base industrielle européenne, pas une armée européenne, mais au moins une base industrielle européenne. Mais ça suppose des choix cornéliens. On le voit bien avec les problèmes du SCAF, de l'avion franco-allemand.
Le néo-mercantilisme, cette notion que vous raccrochez à celle de puissance, justement, de quoi s'agit-il et en quoi pourrait-elle nous permettre de donner forme aujourd'hui à cette notion de puissance ?
Oui, en fait, je cherche toujours à définir un troisième terme, parce que quand on regarde les archives, notamment des milieux économiques, des entreprises, on s'aperçoit qu'elles sont pas forcément libre-échangistes ni socialisantes. Ce qu'elles veulent souvent, et c'est normal, hein, c'est pas un peu pareil pour nous, c'est un cadre un petit peu confortable où on a notre avantage et on n'a pas trop de concurrence. C'est un petit peu comme si vous aviez pas d'autres chaînes concurrentes, ce serait quand même beaucoup plus sympathique.
Ah, on aime beaucoup nos concurrents. Mais tout de même, vous avez raison, ce néo-mercantilisme s'appuie sur un soutien fort de l'État et une réduction relative des concurrents.
Voilà, le néo-mercantilisme, c'est le fait d'avoir du protectionnisme en externe, donc c'est Trump, et d'avoir aussi des cartels au lieu d'avoir de la libre concurrence. Donc on soutient les entreprises, mais pas forcément la libre concurrence. Arnaud Aurin a fait un livre récemment là, sur le capitalisme de la finitude, qui va dans le même sens. Donc c'est du capitalisme qui n'est pas forcément libéral. Et c'est quelque chose alors, qui est promu par Trump de manière je dirais caricatural, mais c'est quelque chose qui a aussi été promu par la France pendant longtemps autour des idées de politique industrielle européenne et qui revient un peu devant la scène, c'est-à-dire sur le devant de la scène, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi promouvoir un néo-mercantilisme européen qui soit ouvert, qui soit intelligent, qui soit pas fondé sur une logique protectionnisme binaire, mais qui permettrait de soutenir nos industries d'armement, de soutenir nos industries des voitures électriques. On a commencé à le faire en mettant des tarifs douaniers sur les voitures chinoises, à défaut de l'avoir fait sur l'industrie des panneaux solaires qu'on a laissé s'écrouler parce que justement on ne l'avait pas protégé. Donc le néo-mercantilisme, historiquement ça vient du mercantilisme de Colbert, qui était une doctrine, vous voyez, protectionniste mais aussi libérale, parce que l'idée de Colbert c'était de protéger le marché mais aussi de faciliter l'importation des matières premières, de faciliter l'importation, et là on revient sur le brain drain, de faciliter l'importation de techniciens étrangers, donc par exemple de techniciens
vénitiens. Le brain drain, c'est faire venir des cerveaux.
Colbert faire venir des techniciens de, je crois, du verre vénitien, des choses comme ça, et puis d'unifier aussi le marché intérieur pour avoir une base importante. Donc, vous voyez, le néo-mercantilisme, ça peut se combiner avec le libéralisme.
Est-ce que ça n'existe pas déjà quand on regarde aujourd'hui la politique agricole commune qui existe déjà plusieurs décennies? Est-ce que c'est pas déjà l'incarnation dans un secteur particulier, celui de l'agriculture, d'une forme de néo-mercantilisme?
Si, mais donc ça existe déjà que pour l'agriculture. Après, il faut voir si c'est un néo-mercantilisme agricole qui est salutaire en fait, hein, sur le plan environnemental, sur le plan social aussi, parce qu'il y a une concentration des aides sur les plus gros agriculteurs. Alors d'un côté, ça nous a bien servi, ça nous permet d'avoir de l'alimentation à bas prix, hein. Il faut pas, je dis pas qu'il faut uniquement des tout petits agriculteurs, mais la PAC en fait, pendant longtemps au niveau européen, ça a quand même été un petit peu l'épouvantail d'une politique pleine de défauts. Mais c'est vrai que ça a permis aussi, ce néo-mercantilisme, de préserver un appareil agricole ancien. Mais aujourd'hui, je pense que voilà, le néo-mercantilisme, c'est plutôt sur les technologies vertes, l'armement, et puis des technologies essentielles type pharmacie. D'ailleurs, ça pourrait être un élément de rétorsion face à Trump. Bon, là, il faudrait vraiment le vouloir, et je ne sais pas si on aurait la volonté au niveau européen, mais on a quelques avantages en Europe qui intéressent les Américains, c'est les produits pharmaceutiques et aussi toutes ces machines que produit cette entreprise néerlandaise ASML de production de machines de semi-conducteurs en fait. Donc on pourrait, dans une guerre tarifaire, restreindre l'exportation de tous ces produits stratégiques aux Américains, en théorie.
Je vous cite Laurent Varlouzet, vous écrivez: le néo-mercantilisme a une dimension identitaire, il a donc besoin d'une communauté dotée d'une forte cohésion pour s'exprimer.
C'est important l'identité, on a l'impression qu'elle est totalement absente pour pouvoir permettre au néo-mercantilisme d'exister.
Oui, parce que en fait, le néo-mercantilisme, c'est fondé sur des choix, c'est pas fondé sur la règle. Le libéralisme, à la limite aussi une vision sociale, environnementale, vous pouvez faire des règles qui sont, en théorie, vous avez eu tout ce débat avec vos invités juste avant, qui sont neutres, hein. On peut toujours discuter de l'application des règles, mais il y a en tout cas cette ambition de neutralité. Dans le néo-mercantilisme, vous devez faire des choix discrétionnaires. Donc là, concrètement, si on veut faire du néo-mercantilisme militaire, ça veut dire qui va construire l'avion du futur. Il y aura un constructeur leader. Tout le monde ne peut pas faire un avion, tout le monde ne peut pas faire des tanks, tout le monde ne peut pas faire des missiles, tout le monde ne peut pas avoir toute la gamme. Et donc, certains pays vont devoir fermer des usines pour que la production se concentre dans certains pays. Et là, on voit bien qu'on n'a pas de volonté politique encore de faire ça.
Merci beaucoup Laurent Varlouzet, vous avez tracé le chemin pour permettre à l'Europe de devenir une puissance, il n'y a plus qu'à comme on dit. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Europe contre Europe, entre liberté, solidarité et puissance, un ouvrage qui a paru aux éditions du CNRS en 2022. Et merci à celles et ceux qui ont fait cette émission, Roxane Poulain, Bertie Bourdon, Rodi Eken. À la réalisation, c'est François Richer et Grégory Wallon ce soir à la technique.